Bonsoir à tous. Il est 19h en temps universel, 15h ici à Washington. Bagassi Koura pour ce bulletin d'information. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan ont repris ce dimanche à Kinshasa leurs négociations autour du méga barrage éthiopien sur le Nil Bleu, une centrale hydroélectrique présentée comme vitale pour Addis Abeba et perçue comme une menace par le Caire et Khartoum. Les ministres des Affaires étrangères et des questions hydrauliques des trois pays se sont donc retrouvés en présence du président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui exerce la présidence annuelle de l'Union africaine depuis février. La réunion de Kinshasa se fixe comme objectif de déclencher une nouvelle dynamique, a déclaré à cette occasion le président congolais. Des soldats tchadiens engagés dans la lutte contre les djihadistes au Sahel sont responsables du viol de plusieurs femmes à Téra, ville du sud-ouest du Niger, affirme dimanche la CNDH et la Commission nigérienne des droits de l'homme et de la force conjointe du G5 Sahel. Le gouvernement tchadien a reconnu les faits et assure dans un communiqué que les auteurs de ces crimes, certains soldats du 8e bataillon du contingent tchadien basé à Téra, ont été arrêtés et subiront les sanctions qui s'imposent. Ville de 100 000 habitants, Téra est située dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest nigérien, proche du Burkina Faso et du Mali, dans la zone dite des trois frontières, particulièrement visée par les attaques de groupes djihadistes. Un contingent de 1200 soldats tchadiens a été déployé récemment dans une zone pour lutter, dans cette zone donc pour lutter contre les groupes djihadistes dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel, groupe de 5 pays sahéliens qui s'efforcent depuis 2017 de coopérer dans la lutte contre le terrorisme. Le nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum, a nommé samedi Ouhoumoudou Mahamadou au poste de premier ministre. Ouhoumoudou Mahamadou est l'ex-directeur de cabinet du président sortant Mahamadou Issoufou. Le nouveau gouvernement sera formé dans les prochains jours, selon une source officielle. Le président sénégalais Macky Sall promet le dialogue avec l'opposition et de nouvelles réponses aux demandes de la jeunesse. Un mois après de graves troubles qui ont secoué son pays, dans une allocution télévisée à la veille de la fête nationale, M. Sall, au pouvoir depuis 2012, a aussi assuré rester à l'écoute des pulsions profondes du pays, alors que l'opposition accuse le gouvernement d'être sourd aux demandes primordiales, à commencer par celles de la jeunesse. Des millions de chrétiens dans le monde célèbrent Pâques aujourd'hui sous le signe des contraintes sanitaires. Pour la deuxième année consécutive, le pape a exhorté la communauté internationale à partager les vaccins contre le COVID-19 avec les pays les plus pauvres. Le gouverneur de l'État américain de Floride, Ron DeSantis, s'est rendu aujourd'hui sur le site d'un réservoir d'eau usée menaçant de rompre, ce qui entraînerait une immense inondation et un possible désastre environnemental dans la fragile baie de Tampa. Plus de 300 maisons ont reçu l'ordre d'évacuer dans cette zone au sud de la grande ville de Tampa. L'état d'urgence a été déclaré afin d'allouer de nouveaux fonds pour affronter cette potentielle crise sur le site industriel de Piney Point, une ancienne usine de phosphate composée servant à la production d'engrais. Deux bateaux transportant quelques 160 migrants ont été secourus samedi en Méditerranée après 3 jours en mer. C'est ce qu'annonce une association humanitaire. Mais on est sans nouvelles d'un troisième bateau de migrants qui avait été signalé comme étant dans une situation critique en même temps que les deux autres, indiquait cette association dénommée Alarme Faune, une structure de volontaires qui alerte sur les cas de migrants en difficulté. Et puis enfin, militante féministe, musicienne, actrice ou politique, 343 femmes ont signé ce dimanche une tribune pour réclamer l'allongement des délais de recours à l'avortement en France au-delà de 12 semaines. Ce texte est publié à la veille du 5 avril, 5e anniversaire du manifeste des 343 des femmes célèbres ou anonymes qui affirmaient en 71 avoir avorté illégalement et qui a marqué l'histoire du droit à l'avortement en France accordé 4 ans plus tard. Merci de nous avoir suivis. Le prochain bulletin d'information, c'est dans un peu moins d'une heure. Ce sera sur VOA.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue à tous dans le dialogue des religions. Eric Manelakiza en votre compagnie. Lionel Lunanela Kahima assure la mise en onde. Ce soir, c'est la suite de notre série sur l'importance de connaître son tempérament. Le secret, c'est de reconnaître pour se reconnaître en vue de pouvoir adapter ses comportements. La semaine dernière, nous avons parlé du tempérament sanguin. Dans cette édition, nous nous penchons sur la personne mélancolique. Pour en parler, nous retrouvons nos deux invités, un couple chrétien qui a beaucoup travaillé sur cette question de tempérament. Nathalie Nyamoya, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Olivier Hakizimana, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous les deux.
Merci. Merci beaucoup.
J'ai dit que j'ai deux invités, mais il fallait peut-être dire que j'ai un invité. Un plus un égale un.
Oui.
Ah oui, un exactement.
Un couple.
Une seule chair.
Ouais, ce n'est pas à moi de séparer ce que Dieu a uni.
Oui, absolument.
Oui, Nathalie, je vais commencer par vous. On dit que la personne mélancolique, c'est aussi la personne de type nerveux. Ce tempérament est en affinité avec l'élémentaire qui est de nature froide et sèche, qui correspond au dernier âge de la vie,
oui.
Celui de la vieillesse.
Exact.
Vous n'êtes pas encore dans la vieillesse, mais vous dites que vous êtes mélancolique.
Oui, c'est vrai. En revenant en fait à ce que vous dites, c'est que nous nous rendons compte que la plupart des gens qui se disent mélancoliques sont des gens qui sont toujours reconnus comme des personnes qui sont presque un peu âgées dans leur tête. Mais c'est vrai que nous sommes assez terre à terre.
Très pensif.
Exactement. Nous sommes des gens très pensifs, extrêmement introvertis, comme on en a parlé la fois passée. Il y a deux groupes de tempéraments, des extravertis qui sont composés de colériques et de sanguins, et les introvertis qui sont formés de mélancoliques et de flegmatiques. Et les mélancoliques sont vraiment des gens assez introvertis, qui sont des gens très penseurs et qui sont souvent irritables, d'où le terme un petit peu nerveux, et qui, c'est vrai, sont plutôt assez froids dans leurs émotions et qui tendent à être vus comme des gens un peu trop grands dans leur tête, trop âgés en fait.
Olivier ?
Oui ?
Est-ce facile de vivre avec une personne de tempérament mélancolique ?
Je dirais, d'un premier abord, c'est pas facile. Et je sais que la plupart de ses amis, de ses anciens amis, ils me posent souvent la question, ou lui posent souvent la question quand ils la rencontrent, ou quand ils nous rencontrent, comment avez-vous fait? Comment as-tu osé draguer Nathalie? Parce que on la connaît, donc, depuis qu'elle est à l'école primaire, à l'école secondaire, et même à l'université, c'était une fille qui était froide.
Trop sérieuse,
mais aussi concrète.
Organisée.
Organisés aussi, ils sont organisés. Et vous savez, souvent on aime comparer le tempérament mélancolique à la terre. Et comme la terre absorbe l'eau, c'est la même chose. Chaque idée que tu donnes à la personne mélancolique, elle a tendance à l'absorber. Ce sont des incubateurs. Tu lui donnes un mot, elle t'en sort une phrase. Tu lui donnes une phrase, elle t'en sort un livre.
Surtout quand l'eau s'évapore, dégage de l'air.
Exactement, exactement. Disons que les sanguins...
Et aussi votre tempérament, le sanguin.
Exactement. Les sanguins, comme nous sommes comparés à l'air, nous déplaçons facilement l'eau. Mais eux, je dirais, les mélancoliques en général, et elles en particulier, c'est des gens qui savent conserver ce qu'on leur donne. Ils ont un bon esprit d'analyse, un sens critique. Et c'est pour cela que c'est toujours amusant, c'est toujours bien. Et je dirais aussi, quand on parle avec eux sur certains sujets, on y gagne toujours.
Nathalie, revenons sur les forces qui caractérisent quelqu'un de tempérament mélancolique. On vient de faire une petite description justement, quelqu'un d'organisé, de très pensif, indépendant, n'est-ce pas ?
Oui, exactement. En fait, ce sont des gens qui, dans l'ensemble, s'intéressent beaucoup aux idées, aux pensées. Ce sont des gens extrêmement pensifs, d'où on pourrait penser qu'ils sont nerveux, parce que ce qui n'est pas dans l'ordre de la loi, de ce qui est bien organisé, n'est pas vraiment dans leur milieu. Ce sont des gens qui sont aussi enclins à la contemplation. Ils recherchent aussi le perfectionnement ou la perfection dans toute chose. Donc, c'est vrai que ça peut faire des fois un peu défaut, mais ce sont des gens assez perfectionnistes qui aiment bien s'organiser, être rangé, être sûr, limite être maître de leur propre destin.
Donc, orienté dans les détails.
Exactement. Nous sommes vraiment, moi et en tout cas la plupart des mélancoliques, très dans les détails. Nous, le détail est important. On a tendance d'ailleurs à l'agrandir. Mm-hmm. C'est pour ça que même quand on est en train de discuter avec les autres tempéraments, en particulier les sanguins, où les mots ou les détails ne sont pas intéressants, on peut être facilement dans la frustration ou même dans la blessure, parce qu'on pense que les gens ne nous écoutent pas, ou ce que quelqu'un d'autre l'a dit, on a tendance à l'agrandir et à le développer indépendamment donc vraiment de la réalité.
Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes peut-être beaucoup plus axé sur les horaires, ce qui est aussi une force?
Bon, ce n'est pas forcément dans les horaires, au niveau des horaires seulement, c'est au niveau de l'organisation en général. Vraiment, je me rappelle que souvent quand Olivier est assez instinctif et qu'il veut aller se promener, lorsque il ne m'a pas prévenu, je suis assez dérangée. Je me suis dit non, tu aurais dû me le dire. Ça peut être un peu rebelle d'une certaine manière, mais c'est pas vraiment de la rébellion, c'est plutôt de l'organisation et être dans le plan que tu as déjà organisé.
Vous voulez d'abord planifier, tout planifier.
Absolument.
C'est ça. Ce sont des gens qui suivent facilement les règles, qui aiment jouer selon les règles. Alors, chaque fois qu'ils sont souvent à côté de quelqu'un qui est impulsif, comme les sanguins, ça les met mal à l'aise parce qu'ils doivent suivre les règles et rester dans le cadre.
Ce sont des qualités qui peuvent être perçues par ton partenaire comme un problème pour avoir la paix au quotidien. Comment vous parvenez, par exemple, à faire comprendre à l'autre que c'est plutôt mieux de se ranger et de se compléter?
Je pense que quand on a compris l'importance de connaître le tempérament, son propre tempérament d'abord, et le tempérament de l'autre, déjà, on ne tombe pas dans le piège de vouloir changer l'autre. C'est pour ça que même Jésus a dit, plutôt Paul a dit dans la parole de Dieu, que nous allons rester comme nous avons été appelés. Donc on n'est pas appelé à changer le tempérament de l'autre ou à être changé pour se conformer au tempérament de l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on sait que c'est une faille, une faiblesse, Olivier apprend à me prévenir à l'avance. Quand il sait que, par exemple, le lendemain ou dans deux jours, il a une chose à faire, il sait que Nathalie a besoin d'être rassurée dans ce domaine-là. C'est plutôt dans le domaine de rassurer l'autre et de l'aider à grandir, à sortir de son, peut-être dans sa faiblesse. Et quand j'ai compris qu'Olivier était un peu et que ce n'était pas contre moi, je dis « Ah, ok, c'est bon, il réagit comme ça, je ne devrais pas le prendre personnellement. »
Olivier ?
Oui, ce qu'elle vient de dire, je ne sais pas ce que je pourrais ajouter, parce que tout ce qu'on appelle des qualités, ça peut se retourner être comme des défauts. C'est comme pour le cas quand on parlait de sa sensibilité, ça peut être être susceptible. Alors, c'est pour cela que quand on vit avec cette personne et qu'on sait comment elle pense, comment elle appréhende les choses, ça devient facile parce que on est mesuré dans les paroles, dans ce qu'on lui dit, parce que on sait comment elle va prendre ça. Mais aussi parce qu'elle me connaît, elle va pas prendre tout ce que je lui dis au sérieux, en disant c'est parce qu'il voulait me heurter, il voulait me blesser. Non, au fond, il me connaît, je la connais, et plus on connaît les tempéraments de l'autre, ça devient facile de pouvoir vivre avec cette personne. Mais aussi, il y a, je dirais, à la place de la foi. Parce que quand on sait que le Seigneur l'a créée comme elle est, le Seigneur l'a acceptée comme elle est,
exact.
Et le Seigneur, surtout, l'a destinée à être mon épouse, à être ma femme. C'est pour cela que je me dis, le Seigneur ne se trompe jamais. Il m'a donné Nathalie comme elle est, avec son tempérament mélancolique. C'est ce dont j'avais besoin. Et elle avait besoin d'un sanguin à son côté.
Absolument.
Sinon, le Seigneur lui aurait donné quelqu'un avec un autre tempérament.
Tu as aussi de la chance du fait qu'elle est, hautement créative.
Exactement, oui, exactement. Elle est créative, elle est indépendante. Je sais que souvent, comme les sanguins, on est tout est basé sur les relations avec les gens. Et elle, j'étais choqué avant de pouvoir comprendre son tempérament. Je me disais, mais elle doit avoir un problème. Parce que des fois, je lui disais, est-ce qu'on peut aller avoir un tel? On peut y aller ensemble? Et il disait, est-ce que tu peux pas y arriver seul? Tu peux pas le faire seul. Et c'est comme dans les projets, elle peut le faire, elle peut mener des projets seule. Absolument. Mais elle a compris aussi que j'avais besoin de cette relation, cette interaction. Et c'est pour cela que depuis que je l'ai compris, ça devient de plus en plus facile, mm-hmm. et je profite de sa créativité, et surtout que les sanguins en général, ils ont cette âme artiste. Alors si on combine ensemble l'âme artiste plus la créativité, ça donne un produit qui est vraiment fascinant.
Nathalie, une personne mélancolique, des fois c'est une personne qui veut être perfectionniste, obsessif, ça peut paraître comme un défaut, une friction, comme on dit.
Effectivement, comme Olivier l'a dit, en fait, chaque qualité peut se retrouver dans des situations autres un problème. Ça peut être une qualité parce que c'est bien d'apprendre à faire un travail qui est bien rangé, qui est bien organisé. Les perfectionnistes, donc souvent les mélancoliques, parce que ce sont ces gens-là qui ont cette facilité à être perfectionnistes, ont tendance à travailler, par exemple, dans des projets où il faut plus de concentration, plus d'organisation. Ils sont à l'aise. Alors, ça peut être très bien quand vous avez un projet qui demande une certaine organisation, une certaine expertise, mais ça peut être aussi très dérangeant au niveau social, parce que les gens ne sont pas parfaits, et là, ça peut causer des frictions. C'est à ce moment-là où chaque mélancolique devait prendre en considération, par exemple, que la parole de Dieu dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et que donc, dans ce cas-là, il faudrait prendre les choses au second degré, et surtout par rapport à la grâce que Dieu nous a faite.
Et d'où vient le pessimisme?
Le pessimisme vient du fait que ce sont des gens d'abord qui sont très penseurs. Donc, quelqu'un qui travaille beaucoup dans ses pensées, entre guillemets, dans ses interaction où il est plutôt penseur, il a tendance, lorsque les choses ne sont pas bien, forcément parce qu'il est perfectionniste, mm-hmm. lorsqu'il voit qu'il y a un problème, il va broyer du noir plus facilement, il va se concentrer sur le problème. Ce sont des gens qui méditent, mais qui peuvent méditer très bien. Lorsque c'est un bon projet, une bonne chose, ou même la parole de Dieu, ou même scientifiquement, dans tous les domaines de la vie. Mm-hmm. Mais s'il arrive qu'un problème vient qui n'était pas dans le tableau, ils ont tendance à l'agrandir aussi. Mm-hmm. Donc ce pessimisme est très récurrent chez eux.
Olivier, ce qui est étonnant, c'est que une personne de cette catégorie peut être mécontente d'elle-même.
Oui, parce que comme vous l'avez dit tantôt, vous avez parlé de la recherche de la perfection. Et vous savez, dans ce monde, rien n'est parfait ou complètement parfait. C'est pour cela qu'elles vivent souvent dans la frustration. Et même dans la relation qu'ils recherchent souvent, les mélancoliques avec les gens ou avec les autres, ils ont tendance à être déçus. Et ce qui se passe, c'est que souvent, ils se retournent à eux-mêmes et ils essaient de se protéger de plus en plus. Et vous savez, en parlant de la recherche de cette perfection, en parlant de cette frustration, souvent, le revers de la médaille de cette perfection, c'est qu'ils se retrouvent tout le temps à procrastiner, à remettre les choses à demain ou après demain, parce qu'ils veulent tout le temps ou tous les jours atteindre cette perfection. Et comme on est si bas et qu'on est rempli de toutes sortes d'imperfections, c'est souvent, donc je dirais, le problème qu'elles rencontrent. Elles sont déçues et souvent elles le vivent amèrement.
Je dirais même que vivre le problème que nous avons en tant qu'être humain, c'est que tous les combats que nous avons intérieurement, on a tendance aussi à les projeter à l'extérieur.
Exact.
Donc si une perfectionniste mélancolique n'est pas parfaite par rapport à sa propre vie, il va forcément le jeter sur quelqu'un d'autre.
Mmh. Ah ouais. Ça c'est vrai. Et je l'ai vécu, je dirais, durant les premières années du mariage, on dirait, tout était projeté sur moi. Exactement. Si quelque chose n'allait pas en elle, c'est pour cela que je me posais des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et je sentais qu'il y avait une certaine frustration, un changement d'humeur. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et même si elle essayait de m'expliquer ça, je comprenais pas trop, parce que c'était pas quelque chose de palpable, quelque chose que je pouvais corriger. Et même si j'essayais d'améliorer par rapport à la remarque qu'elle m'avait donnée, je voyais pas de changement et je me disais quelque chose ne va pas. Jusqu'à ce qu'on comprenne que dans son tempérament, si elle laisse pas le Saint-Esprit, si elle laisse pas le Seigneur travailler dans son âme pour laisser la place à cette liberté qui vient de Dieu, mais aussi que le Seigneur lui seul puisse la combler, souvent c'est quelqu'un qui va te mener la vie dure. Et heureusement, elle a compris ça. Et depuis, je vis, je dirais, dans le paradis avant le paradis.
Quand on est mélancolique.
Absolument, absolument. Des quatre tempéraments, le plus à risque de devenir assez déprimé, dépressif et dans tous ces ordres-là, c'est vraiment le mélancolique. Un exemple patent, c'est l'exemple de David. David, dans la Bible, est considéré comme un mélancolique. Il y avait des hauts et des bas. Quand vous lisez ces psaumes, il y a des moments où il est exaltant, il est rempli de joie, il parle de Dieu extraordinairement. Et d'autre part, il y a des fois où, comme s'il s'en voulait à Dieu. Donc, ce sont des gens qui sont vraiment naturellement poussés à devenir dépressifs si leur pensée n'est pas orientée de la bonne façon.
C'est lié aussi à l'anxiété, cette dépression.
Oui, non, la dépression crée de l'anxiété parce que lorsque ces pensées ne sont pas bien ordonnées, ça crée des idées noires et l'un des symptômes, c'est aussi l'anxiété. Donc, ils sont anxieux quand ils n'arrivent pas, quand ils savent pas qu'ils vont faire une bonne chose. Je sais que la plupart des fois, l'un des combats que j'ai, c'est que quand je sais que je n'ai pas encore compris une chose ou j'ai peur de la faire, alors que j'ai une base normale dans ce domaine par rapport aux autres, mais je suis extrêmement exigeante avec moi et c'est là où je dois travailler et savoir que ce n'est pas moi mon propre juge, c'est Dieu qui est mon juge. Et s'il m'a déjà accepté en Jésus-Christ, cela suffit. Et la perfection ne vient pas de l'être humain, mais il vient de Dieu. Plus on travaille avec le Seigneur au travers de sa parole, plus cette anxiété, cette dépression tend à partir doucement.
Et le risque, après, on est malheureux.
Ah oui, oui. Non seulement on est malheureux, mais comme je l'ai dit, Olivier, il devient encore plus malheureux. L'entour devient malheureux.
Mais on le sent. Vous savez, quand une personne mélancolique est malheureuse, elle n'a pas besoin de vous en parler. Vous le sentez. Je me rappelle les premières années, comme je parlais tantôt, je le sentais. Même quand elle était dans la chambre, j'étais dans la cuisine, je le sentais. C'était comme si elle remplissait toute la maison, mais on se posait la question, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle vient de parler de David. David, tantôt vous avez aussi parlé de la créativité. David a été... C'est des gens qui se branchent sur des fréquences. Et ça peut être des fréquences hautes ou des basses fréquences. Alors là, quand elles sont branchées sur les basses fréquences, je dirais de la dépression, de ce qui ne va pas, de ce qui n'a pas marché, de la façon dont elles ont été traitées, souvent elles commencent à déprimer. Mais quand ils sont branchés sur cette haute fréquence, quand ils sentent que la vie est belle, que quelque chose qu'ils ont fait a été accepté, que les gens l'admirent, alors là, ils peuvent te créer quelque chose et là, tu regardes, vraiment, ça te dépasse.
Nathalie, quand on découvre qu'on est mélancolique, quels sont les efforts individuels à faire pour s'adapter à d'autres comportements et quels sont les efforts que l'autre partie doit faire aussi?
L'une des choses d'ailleurs qui m'a aidée, c'était de savoir, le fait de savoir que tu es mélancolique et que ce n'est pas de la folie. Il y a des gens, parce qu'on fait ces podcasts dans notre langue maternelle, il y a des gens qui nous ont écrit, écoute, je viens de me rendre compte que je ne suis pas fou, folle. C'est rassurant de savoir d'abord que c'est normal, que c'est un tempérament, c'est quelque chose d'inné, tu nais avec. Comme autant tu nais sanguin, extraverti, tu nais mélancolique. Ça, c'est la première étape à savoir dire que quand j'ai du blues et que l'autre n'a pas vraiment tendance à voir le blues, c'est inné chez moi. Alors, est-ce qu'on devrait rester sur le côté inné seulement? Non. Savoir qu'il y a des faiblesses, c'est aussi le moment de travailler, de les reconnaître et de travailler dessus. Je pense que quand on a déjà mis le nom à un problème, c'est beaucoup plus facile de donner un traitement beaucoup plus tard. Alors, moi, personnellement, le fait d'avoir compris cela m'a rassurée, m'a déculpabilisée, parce qu'il y a des fois, je me disais, mais je suis pas normale. Mais en même temps, la parole de Dieu pour moi a été d'un secours extraordinaire. Parce que souvent les mélancoliques sont des gens qui savent très bien méditer. Parce que s'ils arrivent à déprimer, c'est qu'ils méditent seulement dans le mauvais côté. Alors s'ils arrivent à prendre la parole de Dieu, à mettre leur effort, cette capacité à mal méditer, mais à le mettre dans la parole de Dieu, moi pour moi ça a été salvateur. J'ai vu vraiment, c'est comme un médicament. Et la parole de Dieu le confirme. Vraiment la parole de Dieu c'est comme un médicament. Le savoir c'est une chose. Prendre la parole de Dieu, c'est une autre chose, et demander à Dieu la grâce de le faire. Pour notre partenaire, je pense qu'Olivier pourrait dire quelque chose.
Je ne sais pas ce que je pourrais ajouter, mais le fait de se comprendre, de savoir qu'on est comme on est, mais aussi qu'on ne s'est pas créé, c'est Dieu qui nous a créés, et il nous a créés avec son tempérament. Vous savez, dans chaque tempérament, il y a des points positifs et des points négatifs. Et même par rapport aux points négatifs, ça dépend toujours de notre attitude. Et si on a une bonne attitude, il y a quelqu'un qui disait, l'attitude détermine notre attitude. Donc, notre attitude va déterminer notre attitude par rapport aux sphères dans lesquelles on va être poussé. Et c'est la même chose avec je dirais les mélancoliques. Ce que j'ai vu et que j'aime plus chez Nathalie, c'est que même quand tu lui donnes une remarque, elle prend le temps de méditer là-dessus. Et c'est pour cela que...
Donc elle reprend toujours du bon côté.
Maintenant quand même. Oui, maintenant. Mais au départ, non, quand même.
Ça dépend toujours de la manière dont on apporte cette remarque. Parce que si on donne, donc, on lui fait la remarque de façon positive, elle va le prendre et va construire là-dessus. Mais si on essaie de la porter de façon négative, ça va la détruire complètement. Et après, ça se retourne contre toi. Alors, c'est pour cela que je dis, de plus en plus, comme je la connais maintenant, j'essaie de l'aider pour qu'elle soit environnée. Qu'elle soit environnée par cette atmosphère qui va apporter de bonnes fréquences. Et notamment, je sais qu'elle s'entoure de plus en plus par la louange et l'adoration. Et quand elle passe du temps dans la louange et l'adoration, ça la bénit énormément. Et l'autre chose qui m'a aidé, c'est par rapport au langage que j'utilise. Parce que quand on parlait des tempéraments, il y a des langages qui touchent chaque personne selon son tempérament. C'est comme le livre qui parle des langages d'amour. Alors, la même chose se passe pour Nathalie. Quand je parle avec elle, il faut que dans mon langage, je véhicule cette compréhension, son soutien. Et ça l'aide énormément.
Nathalie, il nous reste quelques secondes. Toutes les mélancoliques ne sont pas nécessairement les mêmes. Quels sont les conseils que tu peux donner pour justement changer positivement?
Comme je l'ai dit, il faut d'abord reconnaître qu'on est mélancolique et savoir que ce n'est pas une maladie, que ce n'est pas une folie, que ce n'est pas le diable qui t'a attaqué. Et savoir que c'est quelque chose, c'est une force que Dieu nous a donnée, une capacité de méditer, parce que ce sont des gens qui sont poussés à penser, à être stable, à être introverti. Et c'est une très bonne chose. Mais en même temps, savoir qu'on ne se suffit pas, puisqu'on a une tendance à être indépendant, et surtout à apprendre à dépendre de Dieu et à comprendre la richesse qu'il y a parmi les autres personnes. Parce que nous avons une difficulté à voir, à accepter l'autre lorsqu'il n'a pas les mêmes pensées que nous. Et savoir que si même il n'a pas les mêmes pensées que nous, il a une richesse que forcément tu n'as pas.
Et c'est très important à savoir vos relations avec le mélancolique ou la mélancolique. Soyez calme et posé et évitez de lui faire des reproches. Merci. Nous arrivons au terme de cette édition du Dialogue des Religions. On parlait de la personne mélancolique dans cette émission. La semaine prochaine, on va parler du flegmatique.
flegmatique.
On parlera de flegmatique, oui.
Tout à fait. Nous découvrirons ensemble ce tempérament flegmatique qui a une affinité avec l'élément eau, qui est de nature froide et humide. Il correspond au premier âge de la vie, celui de la petite enfance. Merci, merci pour votre temps et surtout votre contribution dans cette émission. Merci Nathalie, merci Olivier.
Merci beaucoup Eric.
Merci pour l'invitation.
Eric Manilakis a été avec vous à la présentation. Lionel Lunanila Gahima a facilité la mise en onde. Je vous souhaite une agréable soirée. À la prochaine.